à présent...
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, le passé dans le présent avec Johan Chapoutot, professeur d'histoire à Sorbonne Université à Paris. À présent, le présent n'est pas fait que des événements présents, des événements qui se produisent à l'instant où nous parlons. Le présent est aussi tapissé de passé, du passé qui reste dans nos mémoires, mais aussi du passé objectif, du passé qui n'a pas encore délivré ses effets, négatifs, mais aussi parfois positifs, un peu comme des mines sur les plages de débarquement, dans les champs, des champs de bataille. Il reste des bombes non encore explosées de notre passé. Nous en parlons ce soir avec un démineur professionnel, Johan Chapoutot, professeur d'histoire donc à Sorbonne Université. Bonsoir Johan Chapoutot.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir pour parler de votre travail, j'allais dire d'une façon générale. Je vous ai présenté un petit peu comme un démineur. Bien sûr, vous êtes connu d'abord comme l'historien du nazisme pour lui-même, même un des récents. Il y en a d'autres. Vous faites partie d'un mouvement qui étudie vraiment le contenu du nazisme, de ce que vous avez appelé dans un de vos derniers livres la révolution culturelle nazie, mais aussi démineur, j'allais dire, au sens où je crois que pour vous, le nazisme n'est pas seulement un événement du passé, et d'ailleurs que le passé est un peu plus compliqué qu'on ne croit d'une manière générale. Et votre dernier livre qui a fait controverse, et c'est plutôt souhaitable, plutôt significatif, qui s'intitule « Libre d'obéir », et le sous-titre était « Le management du nazisme à aujourd'hui ». Votre dernier livre présentait un cas d'école, un cas d'espèce, un cas complexe, mais significatif aussi par sa place dans votre travail, par sa question de méthode, quelque chose que le nazisme aurait laissé sur une plage, mais qui n'est pas un bunker, qui est plutôt un dispositif social et pas forcément lié à tous les autres du nazisme, le management. Alors, avant d'y venir à cet exemple, Johan Chapoutot, est-ce que je présente correctement votre approche de la façon dont le passé est encore présent aujourd'hui?
Oui, absolument. C'est Michael Fessel qui a cette très belle formule qui dit que il s'agit parfois de voir ce passé qui persiste sans signer. Sans signer, oui. Parce que parfois, enfin souvent, on persiste et signe, hein, oui. Comme le veut l'expression.
Ah, voilà, c'est ça.
Et là, on a un passé qui persiste sans signer et il est bon peut-être pour notre propre lucidité, pour notre propre réflexivité, pour notre propre connaissance de nous-mêmes. Vous êtes philosophe, connais-toi toi-même, c'est une vieille injonction. Eh bien, peut-être...
On essaye d'être philosophe. Celui qui dit qu'il l'est, l'est sûrement pas.
Mais en tout cas, il est bon pour se connaître soi-même de révéler cette signature du passé, hein, et de voir ce qu'elle contient, ce qu'elle trace et ce qu'elle dirige. Et vous avez parfaitement raison, je me suis intéressé au nazisme pour lui-même, en tant qu'objet d'étude, et je suis un parmi des myriades de grands et de spécialistes du nazisme. Mais le nazisme m'intéresse aussi, non pas seulement pour lui-même, mais pour ce qu'il dit de quelque chose qu'on pourrait... Alors le mot est piégé, hein, comme beaucoup de mots et de concepts généraux, mais pour ce qu'il dit et ce qu'il révèle, ce qu'il trahit peut-être, de notre modernité... Il ne s'agit pas d'aller bille en tête déboulonner des statues ou jeter le bébé avec l'eau du bain et dire que notre modernité est atroce. Personnellement, je suis assez content de vivre en France et en Occident en 2020.
Merci de le rappeler, effectivement.
Et je pense que ça vaut d'être rappelé, oui. Cela dit, le nazisme est un phénomène qui est né au cœur de l'Europe du XXe siècle. Ce n'est pas un phénomène qui est né en Papouasie au XIIIe siècle. Hein, c'est bel et bien l'Europe du XXe siècle. Pas n'importe quelle Europe, en plus, l'Europe centrale, l'Europe alphabétisée, cultivée de cette tradition en grande partie luthérienne. Et dès lors, ce nazisme-là a des choses à nous dire sur notre temps et notre lieu. On aborde souvent le nazisme comme étant extraterritorial, or il est bel et bien de notre temps et notre lieu.
Mais alors, Johan Chapoutot, on pourrait dire peut-être que dans la trace... cette signature du nazisme et de ses actes dans notre présent, il y a des souvenirs qui, je dirais, font inévitablement et légitimement écran. Absolument. Particulier l'extermination, le génocide, mais aussi la guerre dans son ensemble. Mais le génocide, sans doute en particulier, les actes d'extermination. Je pense que vous ne déniez pas le fait que leur importance, au contraire, même le fait qu'il est absolument normal que ce soit la première chose qui nous vient, mais qu'en même temps, ça ne vous interdit pas d'aller chercher des origines lointaines, sans disculper d'aller chercher des traces d'un autre passé dans ces actes-là, dont le nazisme n'est pas la seule causalité directe, immédiate, présente dans son présent, il y avait des traces, et puis d'aller chercher d'autres objets. Mais d'abord, disons, sur ce souvenir-là, sur ce souvenir dont on dit souvent qu'il ne passe pas, ce passé qui, en effet, ne passe pas, ce traumatisme qui est à la fois inévitable et peut-être écran. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur la manière dont vous le situez dans votre travail? Est-ce que ça a été pour vous un point de départ, d'abord? Est-ce que c'est quand même un objet qui, pour vous, fait la singularité du problème, j'allais dire?
C'est l'interrogation première, je pense, hein, pour quiconque entre dans une étude scientifique du nazisme, c'est ce pourquoi. Hein, et ce pourquoi qui n'est pas indépassable, mais qui est fondateur, qui est cardinal. Le nazisme a déchaîné un paroxysme de violence sans comparaison dans l'histoire de l'humanité, par le génocide perpétré contre les Juifs d'Europe, par la guerre qui a fait en tout 60 millions de morts, par des pratiques de violence contre les populations civiles systématiques qui font que vous avez 27 millions de morts en Union soviétique en un peu plus de 3 ans à peine.
Du fait du nazisme lui-même, des autres morts
de l'Union soviétique. Absolument, de la politique de violence et de destruction systématique que les nazis infligeaient aux populations civiles à l'Est. Cela dit, moi je suis un historien du nazisme à la base, hein, je m'intéresse à d'autres choses, mais je suis historien du nazisme et pas de la Shoah, et c'est les deux champs sont distincts et par des bibliographies, par des méthodes, par des écoles, par des colloques, des socialisations académiques différentes. Et ce qui m'importe toujours de dire, c'est que s'il y a un écrasement temporel, c'est un phénomène assez court au fond, hein, de 1919 à 1945, et on a tendance à voir tout dans tout, si vous voulez, et à voir pour certains, par exemple, la Shoah décidée dès 1920, alors que c'est une absurdité, les plus hauts cadres du nazisme ne pensaient pas, n'arrivaient pas à penser ce paroxysme et la destruction, ce crime métaphysique en fait, hein, de destruction totale, avant la fin de l'année 1940. Entre l'été et la fin 1941. Donc il convient de remettre de la chronologie et de montrer que, ça peut choquer a priori, mais en fait c'est assez évident d'un point de vue scientifique, que le nazisme ce n'est pas la Shoah et ce n'est pas que la Shoah. Mmh. C'est-à-dire que vous avez une expérience, on va dire politique, partidaire, populiste, culturelle depuis 1919-1920, et vous avez ensuite une expérience de gouvernement, de biopolitique, dirait Foucault, il a tout à fait raison, hein, depuis 1933. Vous avez 8 ans de nazisme avant la Shoah.
Et à la fin, il y a le génocide lui-même.
Absolument.
Alors, mais est-ce que ça veut dire, Johann Chapoutot, que d'une certaine façon, il y a à la fois, vous cherchez à la fois une explication à ces actes qui quand même sont pour vous l'origine du travail, le pourquoi, mais une explication, un pourquoi qui se dissocie un tout petit peu du comment. Les historiens de la Shoah sont vraiment aussi dans ce comment, devant cette énigme. Il faut aussi montrer qu'elle a procédé par des méthodes, des techniques particulières. Mais ce pourquoi n'annule pas la singularité de l'événement. Bien au contraire, pour vous, au fond, la recherche du pourquoi, même s'il remonte assez loin, s'il dissocie des périodes, s'il remet dans une histoire, n'est certainement pas pour minimiser. Au contraire, votre histoire longue montre la gravité de l'événement et, au fond, pourquoi il se poursuit aussi jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et il ne s'agit pas... il s'agit tout simplement de livrer une contribution à l'intelligence du phénomène, c'est-à-dire à la compréhension et ou l'explication, l'élucidation en tout cas du phénomène. Et vous avez raison de distinguer le comment du pourquoi. De fait, les historiens de la Shoah, qui pratiquent beaucoup une histoire sociale très concrète, parfois très positiviste, et à juste titre, parce qu'il s'agit d'établir les faits, puisque le négationnisme est là, qui est toujours en embuscade, toujours. Et on le voit pour tous les événements de crimes de masse et les événements traumatiques de masse, pour le génocide contre les Tutsis au Rwanda, c'est la même chose, le négationnisme est virulent.
Il a même été contemporain de l'événement. Il y avait
totalement.
Certains incitaient au massacre en même temps qu'ils disaient qu'il se passait rien.
Absolument. Et les nazis eux-mêmes ont été des maîtres dans cette configuration-là du crime, puisque ils ont tout fait pour organiser l'oubli, l'effacement des victimes et de leur crime lui-même, qui était censé n'avoir jamais, ne s'être jamais produit, parce que les Juifs, in fine, n'auraient jamais existé, ils auraient disparu de la surface de la Terre. C'est pour ça que je parlais de crime métaphysique, et même doublement métaphysique, parce qu'au fond, on va nier jusqu'à l'existence et au souvenir même des victimes. Donc, vous avez le comment, et il faut établir les faits, c'est absolument important. Moi, je me situe, je vois ce que font les collègues, et c'est absolument capital. Je me situe, moi, sur un autre terrain, et j'essaie d'apporter ma contribution à l'intelligence du phénomène, en livrant ma contribution, effectivement, vous citiez la loi du sang tout à l'heure, à ce que j'ai appelé les fondements normatifs de l'agir nazi.
Parce que dans le pourquoi, il y a évidemment aussi des représentations, des discours, et même c'est peut-être le pourquoi premier, finalement, le pourquoi mental. On reste en face d'êtres humains qui organisent leurs actions selon des raisons aussi monstrueuses soient-elles, Johann Chapoutot.
Alors, le terme que vous citez, Frédéric Vorne, s'il est là, c'est être humain, a priori, et c'est parfaitement compréhensible, et moi-même, je suis entré là-dedans avec cette idée-là, on n'a pas affaire à des êtres humains, on a affaire à des fous, des barbares, des criminels extatiques, des illuminés, des fous furieux. Sauf que on est bien, bel et bien forcé en tant qu'historien de faire ce constat qu'on a affaire à des êtres humains, c'est-à-dire des gens qui, comme vous et moi, évolue dans un univers de sens, de valeurs et de normes. Et c'est à ça que j'ai consacré une grande partie de mon travail, donc la loi du sang, la révolution culturelle nazie, en essayant de voir que, et en me rendant compte que cette vision du monde, je reprends le terme que les nazis eux-mêmes avaient emprunté à la philosophie, hein, le terme de Weltanschauung, j'essaie de reconstituer ces coordonnées mentales et on s'aperçoit, mais ça n'a rien de forcément original. Hannah Arendt l'avait bien vu elle-même pour le colonialisme, par exemple. On s'aperçoit que les concepts cardinaux fondateurs, les pierres angulaires, si vous voulez, de la vision du monde nazi, ne sont pas nazis en soi. Elles n'ont pas été créées par eux. Et très souvent, même dans la quasi-totalité des cas, elles ne sont pas allemandes. Mmh. Alors qu'on a essayé de rendre raison du nazisme en le plaquant sur une spécificité, voire sur une idiosyncrasie allemande.
Donc ce crime métaphysique, qui est pour nous métaphysique, qui laisse une trace sur notre conception du monde, effectivement sur notre conception de l'humain, qui l'a fait exploser d'une certaine façon, qui marque un avant et un après, il est lui-même métaphysique en un autre sens, parce qu'il se justifie par des métaphysiques, même s'il prend des briques un peu partout, et ça ne veut pas dire que Nietzsche ou tel auteur français ou autre est responsable de ce montage métaphysique, mais qui justifie justement ce que vous appeliez un crime métaphysique. Johann Chapoutot, je voudrais vraiment qu'on travaille aussi sur les autres effets du nazisme dans le présent, d'un autre ordre, que vous ne mettez pas du tout sur le même plan, j'imagine, que le génocide. Mais encore un mot, j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette question du traumatisme, cette question aussi de cette persistance-là, ce que certains historiens avant vous ont appelé ce passé qui ne passe pas. Parce que, au fond, est-ce que pour vous, c'est aussi une dimension de cette rémanence du passé dans le présent? Est-ce que c'est toujours la toile de fond de notre présent? On a aujourd'hui il y a eu des génocides, vous avez rappelé le Rwanda. Qu'est-ce que vous faites, vous, de cette persistance traumatique? Parce que c'est pas votre premier objet, comme vous l'avez très bien rappelé.
Non. Alors, moi, je m'y intéresse, là encore, en historien, c'est-à-dire en tant que quelqu'un qui va essayer de lire le phénomène dans le temps et de voir son évolution, le cas échéant, dans le passage du temps. C'est ce que je fais un tout petit peu dans le dernier livre que vous avez cité, Libre d'obéir, avec cette manière dont cette manière que l'on a eue en Occident, en Allemagne de l'Ouest, mais aussi en France, de cultiver un mythe nécessaire après 1945, qui était celui de la dénazification. Mmh. Bon, on s'est rendu compte ensuite, les générations les plus récentes d'historiens ont bien montré que cette dénazification n'avait pas eu lieu, parce que elle ne pouvait pas avoir lieu dans la mesure où tous les cadres étaient impliqués, et dans la mesure où entre 45 et 47, on était passé d'une guerre contre le nazisme qui était gagnée, à une guerre froide, parfois tiède, contre le communisme international qu'il fallait gagner. Mmh. Et comme allié dans la lutte contre le communisme, on a guère trouvé mieux que les nazis, à vrai dire, hein. Partout, d'ailleurs, hein. Dans les services secrets, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les polices. En France,
on a recyclé. On est presque déjà dans votre livre sur le management. Il y a aussi cette persistance des personnes, des fonctionnaires de la gestion, j'allais dire, du nazisme, qui se sont retrouvés dans la gestion tout court. Et on va voir ce que veut dire cette persistance là. Mais encore une fois, pardon, sur la toile de fond, l'ombre de là l'acte criminel lui-même qui persiste encore une fois jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que pour vous, il y a des registres comme ça différents de persistance du passé dans le présent qui perturbe notre présent lui-même? C'est encore un de nos, vraiment une dimension actuelle.
De fait, ce qui n'a pas été interrogé persiste, nous travaille et ressurgit. On en a vu des thématisations dans le monde économique ou dans la manière qu'on a de traiter le monde économique. On en a vu des persistances ou des rémanences ou des résurgences plutôt curieuses. Je pense au film La question humaine, par exemple, de Nicolas Klotz, ou je pense aussi au procès de France Télécom, qui a été très bien chroniqué par Sandra Lucbert dans Personne ne sort les fusils.
Vous citez le film, en tout cas, dans votre livre.
Oui, je m'étais aperçu en regardant un peu la manière dont avaient été formés les managers de France Télécom qui devaient mettre à la porte 22 000 personnes, puisque c'était l'objectif, qu'un cabinet de conseil privé avait utilisé comme modèle possible d'une action réussie la Luftwaffe et la Wehrmacht. J'avais trouvé ça assez intéressant, parce que les gens soient incultes, pourquoi pas, et qu'ils n'aient pas le sentiment de faire quelque chose de mal en citant ça, voilà, mais qu'ils manquent de tact et de finesse à ce point-là, ça m'avait vraiment sidéré. Oui.
Donc finalement, que ça sorte dans l'explicite, pour vous, vous cherchez plutôt à des traces concrètes de certains dispositifs, mais le fait que ça sorte de l'explicite, ça rejoint une autre dimension sur laquelle j'aurais voulu votre sentiment aussi, Johann Chapoutot. Il y a quand même pas meilleur cas pour travailler le passé dans le présent que le nazisme. J'aurais voulu votre sentiment aussi sur ce qu'on pourrait appeler la dédiabolisation aujourd'hui, le fait qu'il y a des symboles nazis maintenant dans des manifestations, y compris aux États-Unis, que même en Allemagne, j'allais dire, c'est même en Allemagne, maintenant, il y a du néo-nazisme revendiqué comme tel. Pour vous, cette autre modalité, alors il y a le tabou, il y a le fantôme, il y a le trauma, et puis il y a les dispositifs dont on va parler après, mais il y a aussi cette levée des tabous.
Oui, qu'on pourrait appeler la résurgence dans un contexte qui n'a pas été travaillé au fond. On voit, vous parlez de cette résurgence des croix gammées, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne, plus précisément en Allemagne de l'Est, dans un contexte où on avait estimé après 1945 que les élites étaient fascistes et donc coupables et que le peuple était immaculé, et il n'y a donc pas eu de véritable travail sur le, sinon d'antifascisme militant, mais pas de véritable travail sur ce qu'avait fait la société allemande. Ça n'a pas été le cas à l'Ouest non plus, ça l'a été très tardivement à partir des années 70, et dans le sillage d'ailleurs de moments cathartiques comme les procès de Francfort entre 63 et 65. Quant aux États-Unis, c'est le néant en termes de travail du passé,
de culture historique
et de culture historique. Bon, on en a l'exemple paradigmatique avec Trump qui, on va pas épiloguer sur son cas, mais on voit des résurgences parce que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font, de fait, ne savent pas totalement ce qu'ils font.
Les milices néo-fascistes aux États-Unis, vous dites, ils sont vraiment dépourvus de culture historique, ne le font pas délibérément un geste historique, en fait.
Je pense que pour eux, le nazisme, c'est la violence, la maîtrise de la rue, et puis le fait d'évacuer violemment vers les marges tout ce qui est racialement entre guillemets différent, et y compris les juifs, mais c'est quelque, comment dire, ils n'ont pas l'éducation suffisante, ne serait-ce que voir, je sais pas, un Nuit et Brouillard, ou visiter un centre de mise à mort, ou avoir un cours d'histoire qui tienne à peu près la route, qui leur apprenne concrètement ce que c'est.
Oui, mais alors pour vous, qui êtes dans l'histoire longue, je le rappelle, qui montrait que le nazisme est l'héritier d'une histoire longue, des doctrines, y compris coloniales, qui montrait que il y a cette histoire longue, quand même cette persistance, même confuse, pas du tout informée, est-ce qu'elle fait pas partie de l'histoire longue, justement, qui continue? Est-ce que c'est justement pas aussi comme ça que se sont transmis des fantasmes de domination totale depuis la colonisation jusqu'au nazisme? Est-ce que c'est pas toujours un bon historien qu'on prolonge? S'ils allaient visiter les camps de la mort, ils seraient peut-être pas néo-nazis.
Oui, mais ce dont on peut voir la persistance au fil de l'histoire, et ce qui peut servir de manière pédagogique d'ailleurs, c'est par exemple le recours au complot, à l'explication par la causalité diabolique, par la causalité magique, qui se produit toujours lorsqu'une société fait face à un traumatisme à laquelle elle n'arrive pas à donner sens. Donc on recourt.
C'est
à
pas la référence au nazisme pour vous. Elle est vraiment confuse. Elle est vraiment.
Je pense que la référence au nazisme est donc à un complot, qu'il soit juif, judéo-sioniste, illuminatif, hein, comme on le voit prospérer sur les réseaux dits sociaux aux États-Unis en ce moment. Tout cela participe d'un mouvement subsumant, hein, plus englobant, qui est le recours à la causalité diabolique, à la causalité magique, face à des mutations, par exemple celle de ce qu'on appelle le white trash aux États-Unis, hein, des gens qui sont dévastés par la mondialisation, qui perdent leur monde et qui perdent leur pays avec la désindustrialisation, eh bien, ces gens-là recourent à non seulement une causalité diabolique, mais aussi à des vieilles traditions américaines, parce que l'antisémitisme est très très présent aux États-Unis. Il faut jamais oublier que le mouvement des droits civiques dans les années 60, c'est le mouvement des Noirs et des Juifs aussi aux États-Unis.
Et d'ailleurs, Philip Roth, quand il avait imaginé un président nazi aux États-Unis, avait intitulé son livre « Un complot contre la Amérique », mais c'était justement peut-être pour renverser le complotisme contre lui-même. Nous allons revenir dans un instant à la question des dispositifs qui restent encore à déminer sur nos plages. The dawn and all its majesty is stealing me. Down in all its honesty, it's turning me to clay. Through the bars of iron rain, way beyond and back again, I hear the voice of Eden cry, lift me up, I'm walking. Glorious, this faith, this world in all its vanity, this mother now can take. Down the road, the iron wheels chain my heart to how it feels. I hear the voice.
France Culture,
à présent,
Frédéric Borns.
À présent, ce soir, le passé dans le présent, quelles sont ses traces, quels sont ses effets, quels sont ses signes, comment les désamorcer quand elles sont négatives, comment les reprendre quand ils sont positifs. Nous en parlons ce soir avec Johan Chapoutot, professeur d'histoire à Paris-Sorbonne, à Sorbonne Université, et dont nous allons maintenant discuter aussi le dernier livre, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Mais Johan Chapoutot, vous me disiez qu'il y avait quand même un lien entre la musique que l'on vient d'entendre et les sujets que nous sommes en train de discuter. J'avoue, je vois pas du tout lequel. Donc si vous pouviez nous en dire un mot.
Voilà, c'est donc David Gray. C'est une chanson qui s'appelle Real Love. Et j'avais découvert ça quand j'étais aux États-Unis. J'avais vécu aux États-Unis il y a une grosse quinzaine d'années comme lecteur, hein, comme beaucoup. Et j'étais à Harvard et j'avais écouté beaucoup ces musiques-là. Et j'avais observé avec beaucoup d'intérêt des institutions comme la Harvard Business School, la School of Government, et je m'étais intéressé un petit peu à tout ça, alors que je faisais autre chose, puisque je commençais ma thèse dans la Weiner Library sur le nazisme et l'antiquité.
Ces échanges universitaires qui sont aujourd'hui freinés par la pandémie et dont on voit bien qu'ils sont aussi la vie de la recherche et dont il faut rappeler l'importance. Alors, Johan Chapoutot, vous citez pas la Business School par hasard. Votre livre a fait débat, je rappelle son sous-titre, hein, Le management du nazisme à aujourd'hui. Rien que ce sous-titre peut effectivement nous interroger. Votre livre a fait débat, alors que précisément, vous n'y étudiez pas cette persistance du nazisme en général, dont on parlait il y a un instant, cette levée des tabous, ce néo-nazisme contemporain qui accompagne curieusement d'ailleurs la pandémie, alors qu'on penserait qu'elle devrait apaiser les conflits, elle les réveille. Vous y étudiez plutôt des dispositifs qui sont nés avec le nazisme, dont certaines méthodologies, certains aspects sont nés, selon vous, avec le nazisme, mais qui persistent pas forcément de manière organiquement liée aux doctrines nazies dans leur ensemble, peut-être que si, vous allez nous le préciser, en tout cas peut-être pas à l'extermination. Quand vous dites que le management peut trouver des sources doctrinales, a trouvé des méthodes dans la gestion nazie, la gestion d'empire qui a été diaboliquement efficace, vous ne voulez pas dire pour autant que tout gestionnaire est forcément gestionnaire de l'extermination, Johann Chapoutot.
Non, mais là, bon, c'est grotesque. Et puis, c'est bon, je le dis dès l'introduction et dans la conclusion du livre et tout au long du livre. Alors, le sous-titre, le management du nazisme aujourd'hui, m'a été reproché, alors que je peux tout à fait le défendre. Il s'agit d'une étude de cas d'un homme qui s'appelle Reinhard Heine, qui était docteur en droit et professeur de droit et qui est général de la SS et qui a été après 1945 fondateur et directeur de la plus grande école de commerce allemande et théoricien du management au point que le MEDEF allemand en l'an 2000 pour ses 95 ans lui a fait un jubilé somptueux pour célébrer, je cite, ce pape du management. Bon, voilà, donc je peux en répondre si vous voulez en termes de prosopographie ou de continuité biographique de ce titre, ce n'est pas un problème et il me semblait que c'était quelque chose...
Prosopographie, l'histoire d'une personne, hein, d'un personnage.
C'était quelque chose qui me semblait digne d'interroger pour interroger également notre présent, objet de cette émission, ou notre modernité de manière plus générale.
Mais alors, justement, on a parlé tout à l'heure de la dénazification, évidemment imparfaite, pour dire le moins, en Allemagne juste après la guerre, cette persistance des réseaux, cette persistance des hommes, ces complicités liées à la guerre froide. Le management comme tel, c'est autre chose, au fond. Le fait que cette personne a été général SS, c'est une chose. Mais au fond, vous isolez aussi certains dispositifs qui, encore une fois, selon l'image que je proposais en introduction, se retrouvent dans d'autres contextes, échoués sur des plages dont on ne se souvient pas de l'origine. Est-ce que votre but est malgré tout de faire servir cette origine historique à une critique du management actuel, au moins à des dérives? Il y a une prise de conscience, mais d'abord, comment est-ce que vous liez historiquement l'objet et dans son origine et dans son usage contemporain?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 30, les nazis qui prennent le contrôle de l'Allemagne se trouvent face à des tâches et à des ambitions, d'ailleurs, démesurées. La dilatation de l'Empire, avec l'expansion, va multiplier les impératifs structurels, adapter donc les structures de gouvernement, de gestion, hélas, le mot est atroce, mais c'est bien le cas, à des populations, à des territoires de plus en plus croissants. Et donc, Reinhard Heine, qui est juriste, fait partie de ces gens qui sont mandatés, il dirige l'Institut de recherche sur l'État de l'Université Humboldt, il est mandaté pour justement penser l'adaptation de l'État à la dilatatio imperii, à l'extension de l'Empire. Et il en tire une conclusion que des cohortes de nazis avec lui tirent, c'est que l'État n'est pas efficace.
Il ne va pas y arriver.
Non, et d'autant plus que l'État est une entité néfaste, puisque c'est une création juive, romaine tardive et française. L'État, c'est le status, d'un point de vue étymologique, c'est ce qui est statique, c'est ce qui demeure, c'est ce qui obstrue face au grand flux de la vie, à la dynamique de
finalement,
la vie.
Dans ce que vous avez appelé dans un autre livre la révolution culturelle nazie, ou dans la loi du sang, vous montriez d'ailleurs de manière saisissante, comment les nazis opposaient le sang et l'encre. L'État est du côté de l'universel quand même. Hegel d'ailleurs l'avait pensé comme ça. Exactement. Au fond, l'État n'est pas finalement intrinsèquement lié au totalitarisme nazi, en tout cas sous sa forme nazie, il est même un adversaire, parce que c'est encore de la rationalité.
Absolument, et c'est quelque chose qui d'ailleurs est l'objet d'un malentendu ou d'une ignorance. On voit dans les nazis des étatistes convaincus selon la vulgate totalitaire ou totalitariste. Pas du tout, ce sont des ennemis de l'État. Alors les staliniens disaient aussi qu'ils voulaient supprimer l'État, mais en fait ils n'ont fait que le renforcer. Alors que les nazis, non seulement ils disent qu'ils n'aiment pas l'État, non seulement ils disent qu'ils veulent le supprimer, mais en plus ils le font. C'est-à-dire qu'en multipliant les agences, dès 1933, ils dynamitent l'État, ils le pulvérisent même, puisque Reinhard Heine fait partie de ces gens, et c'est une pratique avérée, qui estime que face au grand statique de l'État, Il faut épouser la dynamique de la vie, de la race, du sang, du flux biologique vital, en multipliant des agences qui, sur projet, avec un budget et une mission spécifique, eh bien, vont faire leur office et ensuite vont disparaître une fois leur mission remplie.
J'allais dire, on vous voit venir, Joanne Chapoutot, parce que je vois déjà des interlocuteurs qui pourraient dire, mais quand même, on voit qu'il y a des dispositifs qui aujourd'hui peuvent être repris dans des dispositifs de gestion contemporains. Mais malgré tout, si le dispositif est en partie autonome, par son efficacité, peut être repris dans d'autres contextes. Après tout, ça veut dire aussi qu'il est distinct de l'idéologie du nazisme. Ça veut dire qu'on peut faire servir un dispositif redoutable, qui peut être critiqué en lui-même, comme vous le faites du point de vue de votre critique contemporaine aujourd'hui du libéralisme, mais qui d'un autre côté n'est pas forcément utilisé pour une idéologie qu'il faut critiquer par ailleurs et qui, elle, a conduit à l'extermination, par exemple. Donc, oui. Il y a deux niveaux de critique dans votre discours.
Oui.
Et il faut absolument les distinguer, il me semble,
oui.
Joanne Chapoutot.
Mais il faut aussi préciser, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le nazisme n'est pas la Shoah, et la Shoah n'est pas que le nazisme. Hein, parce que la Shoah a été possible en Europe grâce à la collaboration active de paysans polonais, de nationalistes ukrainiens, de suprémacistes lituaniens, d'oustachis croates, etc. Donc il n'y a pas que le nazisme dans cette histoire, il y a bien autre chose. Et par ailleurs, il y a eu 20 ans de parti et 8 ans d'expérience de gouvernement nazi avant le déclenchement de ce crime ultime qu'a été la Shoah.
Sur les deux niveaux finalement de critique, c'est-à-dire la fait d'isoler des dispositifs qui sont repris aujourd'hui et qu'on peut critiquer comme tel, et en même temps de critiquer l'idéologie malgré tout comme vous le faites, c'est bien deux niveaux malgré tout différents, deux héritages un peu différents, comme vous venez de le rappeler d'ailleurs.
Mais cela dit, les dispositifs ne sont pas neutres. Et les dispositifs sont liés à des terreaux ou à des conditions de possibilité idéologique. Alors, on peut le montrer facilement avec le nazisme. Les nazis, dont Reinhard Höhn, opposent le management, la Menschenführung, le fait de diriger les hommes, à la Verwaltung, à l'administration. Donc ça, c'est français, c'est romain tardif, c'est juif, c'est codifié, c'est rigide, c'est pas bien. Donc, contre le statique rigide du cartésien jacobin français, de l'administratif, eh bien, il faut promouvoir la Menschenführung qui est.
Oui, dans leur invention du management, fluide. Leur idéologie intervient, mais ça ne veut pas dire que le dispositif est intrinsèquement idéologique.
Moi, ce que je remarque tout de même, c'est que, à partir des années 1970, ce que l'on exposait, là, le remplacement de l'État par des agences, hein, ça va porter un nom dans les années 70, ça va s'appeler le New Public Management. Bon, et c'est un catéchisme orthodoxe obligatoire aujourd'hui. Hein. L'État est inefficient, il faut importer les méthodes du privé, la recherche du profit. Bref, on en a vu d'ailleurs toute la catastrophe récemment à propos de l'hôpital public français. Mais ce que l'on voit, c'est que il y a une homologie, si vous voulez, des visions du monde et des structures idéologiques. La théorie de l'agence nazie et le dynamisme de la Menschenführung nazie s'inscrit dans un contexte qui est celui d'une nécessité naturelle. Hein, il faut agir ainsi, on ne peut pas faire autrement. Et nous vivons depuis les années 70 de manière homologique, dans un autre contexte de nécessité, qui est celui de la théodicée du marché, contre lequel il n'y a rien à faire.
Une sorte de naturalisation, comme disent les sociologues, c'est-à-dire au fond, Joanne Chapoutot, l'idée que on présente comme naturel des dispositifs qui sont en fait, qui ont une histoire, qui dépendent d'un contexte, qui n'ont rien d'évident qui sont des dispositifs historiques précisément. Et vous-même, vous êtes historien évidemment.
Précisément, on confère à des dispositifs une forme de nécessité naturelle par tout un jeu de métaphores, de mots, d'idées, de notions. Tout simplement, parler de cours de la bourse, c'est quand même utiliser une métaphore, on va dire, fluviale, géologique, géographique, qui exprime une nécessité naturelle, qui exprime un phénomène naturel et donc nécessaire. Et donc, par le jeu de la métaphore qui tait son nom, qui s'ignore et que l'on ignore, eh bien, on acclimate, on légitime. Céline.
Je trouve qu'il y a quelque chose de fondamental, quelles que soient au fond les discussions qu'on peut avoir sur le lien que vous faites entre les différents niveaux de cette histoire à les mener tous. C'est-à-dire, au fond, est-ce que vous considérez que votre travail d'historien, encore une fois, dans ce déminage du passé dans le présent, c'est justement d'aller chercher l'histoire de ce qui est dans le présent, nous présente comme évident, mais d'aller montrer que ça a une histoire et que, en fait, voilà, ce caillou sur lequel je marche, eh bien, en fait, c'est une brique d'une maison échouée. C'est une brique dont il faut retracer l'origine, qui ne vient pas forcément de la mer, qui vient peut-être d'un édifice enfoui.
Je pense qu'il y a effectivement un impétus, on va dire cognitif, hein, chez chacun dans sa discipline. On devient historienne ou historien sans doute parce qu'on a un problème avec le temps qui passe. On devient sans doute aussi poète ou philosophe pour les mêmes raisons. Donc, parce que l'histoire interroge non.
Vous aimez peut-être le temps, non ?
Oui, en tout cas, il m'interroge, et j'essaie de l'habiter au mieux. J'essaie d'habiter, de lire et de vivre le temps. Voilà, c'est pour ça que je suis historien. Et parce que être historien, c'est aussi un mode de vie, hein, c'est aussi une forma vitae.
Et le temps comme résistance, justement, à une illusion un déni même du temps.
Alors d'abord et avant tout, le temps comme finitude, hein, ou comme lieu de la finitude, ce qui nous pose un petit peu problème à bien des égards, mais le deuxième impétus, si vous voulez, qui nous conduit peut-être à interroger le temps, et puis c'est la volonté de, effectivement, comme vous le disiez, de ne pas s'en laisser compter, voilà. De ne pas s'en laisser compter, et puis de dénaturaliser, de défataliser aussi. Alors il y a, si vous voulez, en tant que citoyen, on peut avoir des myriades de points, de champs d'expérimentation, hein, de cette intelligence-là ou de cet impétus-là. Moi, j'avais été effaré lors des manifestations dites pour tous, contre le mariage pour tous, de cette absence totale d'historicisation de ce que c'était que la famille, le couple. Enfin, j'avais été effaré de ce retour.
On invoquait la nature,
mais alors, c'était le grand retour d'un néotomisme qui s'ignorait lui-même, parce qu'on avait affaire, de fait, en grande partie à des ignorants, un néotomisme qui pensait tout en termes d'essence, de vocation et de nécessité, sans le dire et sans le savoir. Et pour moi, ça avait été un vrai choc de voir ça, cette espèce de résurgence, là, assez violente, hein, d'un 19e siècle ultramontain, en plein 21e siècle.
Ça ne veut pas dire qu'on peut pas discuter ou débattre, mais que le fait de le faire d'un côté ou de l'autre au nom de la nature est une usurpation, hein, en tout cas pour l'historien. Est-ce que pour vous, on va revenir aussi sur cette histoire longue qui fait que le nazisme lui-même reprend des éléments d'une histoire comme celle du colonialisme ou de l'esclavage dans sa justification d'une domination totale. Est-ce que pour vous, ce travail de déminage du présent, finalement, il y a beaucoup d'objets, à part le management là, dont vous faites un cas d'espèce, et sur lequel on reviendra aussi encore. Intuitivement, comme ça, citez-nous deux trois blocos échoués que vous auriez envie d'aller explorer.
Alors, au fond,
sans faire de vous un obsessionnel, j'allais dire, des traces du nazisme dans le présent, mais
non, mais de fait, elle saute quand même aux yeux. J'ai commencé à étudier ce phénomène et cette période comme tout le monde, en fait, hein, en me disant qu'on avait affaire à un apax, à quelque chose d'unique, un peu incréé, peut-être issu de la collision d'un astéroïde avec notre planète. Si vous voulez, mais de fait, en voyant, et puis en plus, j'avais entendu, sinon appris, que c'était spécifiquement allemand, c'était une résurgence des Germains des Forêts, et moi donc, en tant que Français, j'avais rien à voir avec ça. Bon, très bien. Sauf que, en voyant quels étaient les éléments constitutifs de cette vision du monde, quelles étaient les coordonnées mentales, hein, de ces gens-là, j'ai vu des concepts, toute une litanie de ismes, hein, entre l'impérialisme, le capitalisme, l'antisémitisme, le racisme, le colonialisme, le productivisme, et j'en passe, le darwinisme social, bien entendu, je me suis rendu compte qu'on avait affaire à des choses qui avaient été pensées, travaillées dans d'autres contextes ailleurs, et que dans un contexte très particulier, si vous voulez, le texte préexistait, mais il s'est cristallisé dans le texte nazi. Les éléments du texte existaient, mais ils se sont cristallisés dans le texte nazi, dans ce contexte particulier, apocalyptique, eschatologique à bien des égards, très anxiogène, de l'Allemagne, de 1871 jusqu'à 1933, de 14 jusqu'à 33, ou de 19 jusqu'à 33, ou de 29 jusqu'à 33. Toute une série de crises qui ont fortement ébranlé l'Allemagne, qui ont dépaysé les Allemands au sens littéral, qui les ont privés de pays. La modernisation brutale et rapide, la défaite, l'hyperinflation, la guerre civile, et la très grande crise, suivie de la très grande dépression. Et c'est dans ce contexte-là que se sont nouées en gerbe des choses que les Allemands n'avaient certainement pas inventées. Ce qu'il y a d'allemand, peut-être, dans le nazisme, c'est peut-être le Lebensraum, le biotope, l'obsession du biotope. Mais...
Donc malgré tout, il y a une forme de radicalisation qui conduit non seulement à un crime global, mais aussi à la dogmatisation, la formalisation de dispositifs qui sont partout, peut-être... mélanger avec d'autres choses, et encore aujourd'hui, dès qu'il faut, au fond, pour les penser, il faut les resituer. Et paradoxalement, le texte nazi nous permet, comme vous disiez, expression intéressante, ce texte nous permet de les décrypter sans pour autant tout faire revenir comme si c'était à l'identique. Nous allons y revenir dans un instant, Joanne Chapoutot.
À présent, Frédéric Worms.
À présent, ce soir, le passé dans le présent, le passé qui vient bousculer le présent, un présent qui n'est jamais entièrement lui-même, totalement coupé de ses différentes couches de passé. Nous en parlons avec Joan Chapoutot, historien du nazisme et auteur de notamment du son dernier livre, peut-être le plus petit en volume, mais pas en enjeu ni en controverse, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui. Joan Chapoutot, nous avons parlé de cette petite brique qui est le dispositif de management, comment vous la reliez à l'ensemble. Je voudrais quand même que vous reveniez un instant aussi sur finalement votre conception générale de l'histoire, de l'histoire longue aussi, au fond, où un phénomène comme le nazisme doit être resitué. Une histoire très longue. Est-ce que vous êtes un tenant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire globale, cette histoire dont on dit qu'il faut justement dépasser les cadres a priori des pays, des époques, pour comprendre ce qui s'y passe, pas pour tout mélanger, Joanne Chapoutot?
Ah, c'est une démarche extrêmement stimulante et très féconde intellectuellement, qui consiste à penser ensemble, à penser avec des phénomènes qui étaient disjoints par les traditions académiques, par la méconnaissance aussi, qu'on avait des travaux des collègues. Et vraiment, c'est quelque chose de très fécond, alors qui est né déjà depuis une trentaine, quarantaine d'années aux États-Unis. C'est pas une puissance mondiale, donc c'est c'est pas un hasard, qui a fait souche aussi en Grande-Bretagne, ancien empire mondial, qui a eu un petit peu plus de mal à s'enraciner en France, mais c'est désormais le cas et c'est très heureux. C'est très heureux de, comment dire, de penser ensemble des phénomènes dans l'espace comme dans le temps. Et alors pour ce qui est du nazisme, c'est ce qu'on essaie, enfin c'est ce que j'essaie moi de faire pour voir d'où ça vient et si ça demeure. Et alors on parlait tout à l'heure du texte nazi, hein, ce texte
oui, avec
dont
des guillemets,
les...
c'est une expression oui. que vous avez employée. Vous-même vous en avez lu tellement et je vous en plains d'ailleurs, mais c'est votre métier en partie.
Ce texte dont les éléments viennent d'ailleurs, viennent d'avant, viennent d'ailleurs aussi, parce que le darwinisme social, par exemple, ce n'est pas allemand, hein, c'est plutôt, ça se déploie plutôt dans des métropoles coloniales comme la France, la Grande-Bretagne, et aussi les États-Unis qu'on peut considérer comme un empire colonial à domicile, avec la ségrégation et puis l'esclavage quelques temps auparavant. Et ce texte nazi-là sert, enfin... me semble avoir un intérêt comme révélateur. Révélateur, bon, au sens photographique, chimique, hein, tout simplement parce que dans ce texte-là, on peut lire en lettres capitales des choses qui viennent d'avant et qui demeurent. Tout simplement parce que ces choses-là, ces phénomènes, ces idées, ces fantasmes, traversent le nazisme aussi, le constituent en le traversant. Le darwinisme social, par exemple, c'est une invention de l'Occident colonisateur et capitaliste de la seconde moitié du 19e siècle, qui est venu naturaliser des hiérarchies sociales et raciales en leur apposant le sceau de la science et de la nécessité scientifique. Ce darwinisme social a été un muscle puissant du nazisme et il n'a pas disparu après 1945. Nous vivons dans un monde, hélas, social-darwiniste.
Avec des éléments de darwinisme social. En tout cas, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que nous vivons dans un monde darwiniste social. Rappelons que le darwinisme social, c'est l'idée que la lutte pour la vie, dont Darwin s'est servi pour expliquer l'évolution des espèces vivantes dans un milieu contraint, sous le poids de la rareté, du hasard et de la nécessité biologique et de la sélection génétique, a été appliqué par certains à la sélection sociale, y compris pour écarter ceux qui n'arriveraient pas à survivre. Donc c'est évidemment un contexte de déplacement. Et Georges Canguilhem, philosophe de la vie, disait que il y a idéologie dès qu'on déplace un concept d'un domaine à un autre. Il a été créé pour les espèces vivantes dans un milieu naturel. Dès qu'on le déplace, voilà, darwinisme social, on serait dans l'idéologie. Je voudrais revenir, Joanne Chapoutot, sur ce que vous disiez il y a un instant, le nazisme comme révélateur. On sait bien, en effet, que là, cette puissance est un révélateur critique très puissant. Un propos antisémite banal, par exemple, on sait maintenant jusqu'où il peut conduire. Il n'a plus rien d'ordinaire. Sartre l'avait dit dans les réflexions sur la question juive. Et les nazis aussi avaient conscience de cette histoire globale dont vous parlez. Vous montrez dans vos livres comment ils se réfèrent à l'esclavage, la colonisation, en disant aux autres pays occidentaux, bah, vous nous reprochez des choses que vous avez théorisées vous-même.
Que vous avez théorisé, que vous pratiquez, hein, c'est terrible, mais au moment de la nuit de cristal, qui ce gigantesque pogrom à l'échelle du Reich, qui suscite à juste titre un émoi quand même dans les autres pays, eh bien, et une campagne de presse dans certains titres, plutôt de la gauche à vrai dire, eh bien, il y a une réaction de la presse nazie qui consiste à publier des doubles pages ou des quatre pages sur les derniers lynchages dans le Missouri, dans le Mississippi, pour montrer, regardez, nos donneurs de leçons, hein, ils sont en train de pendre des Noirs et de les lyncher. Donc, il y a une forme de double morale, disent-ils, une doppelmorale. Et ils le diront d'ailleurs aussi, toujours en 1938, ils l'avaient dit quelques mois auparavant lors de la conférence des Vian, lorsqu'il était apparu que aucun pays, à part la République dominicaine, mais pour des raisons racistes, parce que le dictateur local voulait accueillir des Ashkénazes pour blanchir sa population, aucun pays n'avait voulu accueillir les Juifs victimes du nazisme, victimes de l'expansion du nazisme en Autriche, par exemple.
Mais alors, Joanne Chapoutot, on voit bien comment vous vous servez de l'extrémité absolue, non pas pour la banaliser, mais pour au contraire critiquer des éléments qui sont supposés plus anodins et qui ne le sont pas. Comment est-ce que vous traitez ces différents éléments du passé dans le présent, pour reprendre le thème de notre expression ? Est-ce que quand vous voyez certains revenir sur des traces du colonialisme, des traces de l'esclavage dans le racisme, vous n'avez certainement pas la réaction qu'ont certains sur « on nous culpabilise tout le temps », sur cette critique de la repentance ». Au contraire, ce mot qui a été inventé pour éviter cette histoire critique que vous pratiquez, comment est-ce que vous assumez ce geste critique dont certains disent qu'il revient aujourd'hui de partout, qu'il y a une obsession des historiens pour chercher les traces des crimes.
Alors déjà, je pense pas que dans le discours médiatique sur l'histoire, je parle pas forcément du discours des historiens, ce soit les historiens critiques qui dominent. De fait, hein, il me semble que un Zemmour, un Laurent Deutsch ou je ne sais pas quel autre histrion médiatique domine le rapport
finalement,
au passé.
Finalement, ils disent l'histoire critique est partout, mais en fait,
mais non, mais ce sont eux qui vendent.
Pour vous, il n'y a pas
plus,
assez cette histoire critique.
Donc ça, c'est une première chose. Quant à la démarche critique des historiens, alors d'ailleurs, on parle d'histoire critique, ce qui me paraît curieux parce que ça me semble être un pléonasme, puisque la critique est constitutive de la démarche historienne, même de l'éthos historien. On est là effectivement pour expliquer, pour élucider, pour défataliser, pour dénaturaliser. C'est ça, faire de l'histoire, au-delà du simple fait d'établir des faits et d'avoir une réflexion sur l'homme en tant qu'il est historique, c'est-à-dire qu'il vit dans le temps.
Maintenant, quand on parle d'histoire critique, pardon de vous interrompre, Joanne Chapoutou, c'est aussi parce qu'on dit on pourrait faire l'histoire aussi des émancipations, l'histoire des progrès.
Oui.
Et vous ne vous en priveriez pas. Il se trouve que vous avez travaillé sur le nazisme. Là, il n'y a pas beaucoup de progrès à chercher. Mais il y a quand même des historiens de la Révolution française ou des historiens même simplement du progrès technique, peut-être, qui pourraient aussi nous... Ou social.
Mais absolument. Et
on fait aussi l'histoire des progrès.
On a d'ailleurs une école historienne en France extrêmement dynamique de ce point de vue. Lorsque vous voyez des gens aussi forts que Pierre Saint-Garvelou pour l'histoire du colonialisme, que François Jarry pour l'histoire des possibles environnementaux et énergétiques qui ont été étouffés au 19e siècle, hein, qui fait une histoire non téléologique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation qui est censée être linéaire et unidirectionnelle, eh bien, on a tout cela. Pour ce qui me concerne, encore une fois, j'ai travaillé sur le nazisme parce que je m'interrogeais sur la possibilité pour un humain de faire cela à un humain, hein, ce que l'homme fait à l'homme, selon le beau titre de
Myriam Revaud-Allonne.
De Myriam Revaud-Allonne. Mais au-delà du nazisme, ce qui m'intéresse, c'est la modernité et les manières de vivre et d'aménager la modernité. Moi, ce qui m'intéresse depuis des années déjà et que je travaille parallèlement, c'est une histoire d'émancipation et d'utopie concrète dans l'Allemagne wilhelminienne, c'est-à-dire l'Allemagne de Guillaume II avant 1914. Comment on a réagi à la modernisation brutale de l'Allemagne en imaginant des altermodernités, une modernité alternative. Et de fait, ça a suscité des choses merveilleuses, des pratiques du corps, des pratiques de l'alimentation et de la sociabilité différentes. Les pédagogies alternatives, les Waldschulen et Montessori qui s'en est inspiré, ainsi que Freinet un peu plus tard.
Qu'on retrouve aujourd'hui dans la pandémie, Joanne Chapoutou, puisqu'il faut.
Mais absolument.
On n'a pas le droit d'être confiné, donc les écoles reprennent parfois le chemin de l'extérieur.
Et c'est en Allemagne à cette époque-là que, face à la brutalité d'une modernisation industrielle, militariste et urbanisante et polluante, hein, parce qu'on parle de la nervosité issue de la pollution sonore à l'époque déjà, les sociologues et les philosophes de l'époque wilhelminienne ne sont pas en reste, eh bien on imagine donc les pédagogies alternatives, les coopératives de production, le bio, on imagine le naturisme et un rapport immédiat à la nature. Et il me semble que c'est très fécond pour nous aujourd'hui et c'est plus ça qui m'intéresse que la litanie des crimes, effectivement.
Donc finalement, pour vous, l'une des toiles de fond que je découvre de l'ensemble de votre projet, de votre parcours en historien, c'est de montrer qu'il y a plus d'une modernité, au fond, de défaire la simplicité apparente de la modernité, dans laquelle le nazisme justement apparaît comme un mystère, un monstrueux mais inexplicable, et en fait de dire, il y a des couches de modernité, il y en a qui ont permis des crimes, n'en reprenez pas non plus tel ou tel dispositif, au moins sans savoir jusqu'où il peut conduire, vous pouvez peut-être le brancher avec la démocratie, mais en tout cas, il y a d'autres branchements, d'autres conséquences possibles, et puis là, vous dites, il y a aussi une modernité des réserves d'émancipation. Donc voilà, mettons le mot modernité au pluriel, mettons les passés dans le présent au pluriel.
Oui, alors il y a la modernité que vous connaissez mieux que moi, Frédéric Worms, qui est celle de la théorie critique, hein, de la dialectique des Lumières, une des Lumières qui sont censées être émancipatrices au XVIIIe siècle et qui se retournent en aliénation et en domination. Ça a été très bien montré par des Allemands, d'ailleurs.
Qui peuvent se retourner, pas fatalement, justement. Et qui sont capables aussi de se retourner contre ce retournement.
Voilà, et ça a bien été montré par Adorno, Horkheimer et puis toute l'école de Francfort. Et Et donc c'est une modernité aliénante, justiciable d'une théorie critique qui doit être contestée et qui est celle bien dont nous voyons l'échec hein, dans la dévastation du monde, dans l'échec de la civilisation, on va dire de thermique hein, et dévastatrice que nous vivons, dont nous voyons plus que les limites, hein, les apories. Et vous avez cette manière d'habiter le temps moderne, cette volonté d'être contemporain, mais sans être enrégimenté, sans être aliéné. Il me semble que de ce point de vue-là, un mouvement allemand comme celui, alors qui est pluriel aussi, mais en grande partie celui de la Lebensreform, de la réforme de la vie en Allemagne avant 1914, qui se nourrit d'ailleurs beaucoup de philosophie, hein, de Nietzsche, hein, beaucoup, eh bien, ça, c'est quelque chose qui est porteur d'espoir.
Mais alors, vous venez d'employer le mot vie, Johann Chapoutau. Vous avez vous-même montré comment ce mot a été presque entièrement récupéré, déformé, tourné vers la mort par les nazis. Au fond, voilà, la pandémie, le monde dont nous vivons aujourd'hui, ces événements écologiques, il faut faire l'histoire critique de ces concepts pour pouvoir les penser, parce que sinon, on va réemployer vie sans savoir qu'il y a différents enjeux possibles, on va réemployer santé, médecine. Au fond, en Allemagne, ces mots doivent être retrouvés après les déformations du nazisme, si on veut repenser la vie, justement, comme orientation. Est-ce que c'est ça aussi le travail d'un historien, c'est de permettre de décaper les mots, décaper l'histoire pour retrouver des possibles?
Oui, et puis permettre à soi-même comme contemporain et à nos contemporains de lire et de vivre le temps, de l'habiter, sans aliénation et sans chausse-trappe. C'est un travail critique, hein, de distinction, hein, de faire le départ de ceci et de cela. Et de ce point de vue-là, les historiens ont peut-être plus que d'autres, disaient certains, comme Lucien Febvre, hein, qui dans ses leçons à l'école normale disait « Je veux vous voir, vous jeter dans la vie, hein, ayez des yeux, pas seulement pour lire des chartes, mais également pour aller observer dans la rue ce qui se passe. » Peut-être que les historiens ont ce rôle, sinon, enfin politique au sens littéral du terme, c'est-à-dire civique là, hein, peut-être d'aider à allumer des petits lampions dans les intelligences des contemporains, de la même manière que eux-mêmes sont nourris de philosophie, littérature, de sociologie.
Au risque des controverses, Johann Chapoutau.
Oui, ça fait partie de l'entreprise, si vous voulez, dans la mesure où vous traitez de sujets aussi sensibles, aussi douloureux, comme le nazisme, par exemple, qui intéresse beaucoup de monde. Et lorsque vous y ajoutez également des mots ou des thèmes ou des objets comme le management qui préoccupent massivement nos contemporains, forcément, vous suscitez des étincelles, un peu malgré vous, et très souvent de la part de gens qui vous lisent absolument pas. Hein.
En tout cas, merci de faire ce travail historique et de permettre ces discussions, dont celle-ci. Donc, je vous remercie beaucoup, Johann Chapoutau.
Merci surtout à vous, Frédéric Worms.
À présent, ce soir, c'était le passé dans le présent, avec tous ses replis, et avec Johann Chapoutau, avec et grâce aussi à Marie le peintre, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Rendez-vous la semaine prochaine, de nouveau vendredi à 21h. Bonsoir.